15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Comment profiter de l'été pour se ressourcer, pour mieux bouger, mieux manger? Comment prendre soin de son corps et de son mental? Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 16h pour évoquer toutes ces questions. À mes côtés, dans ce studio, on retrouve aussi le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez de sexologie un peu avant 16h et vous nous donnerez aussi des conseils de santé pratique.
Bah oui, côté sexo, nous demanderons en fin d'émission comment utiliser ces fantasmes. Et dans les petits bobos de l'été, on va voir comment faire face à la chaleur.
Et notre dossier du jour est aujourd'hui consacré au lâcher prise et à la détente. Que faire pour cesser de penser à ce qu'on doit faire d'ici demain, pour arrêter de faire deux choses à la fois, pour zapper d'une idée à l'autre? Que faire pour ralentir un peu, que l'on soit en vacances ou pas? Pour en parler, nous sommes avec Florence Servan-Schreiber, auteure et formatrice en psychologie positive. Comme tous les jours, à 15h40, nous découvrirons trois nouveaux conseils bien-être et psycho. Aujourd'hui, nous serons en ligne avec une ancienne athlète de haut niveau. Elle nous donnera ses astuces pour transmettre le goût du sport aux enfants. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Sans Rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et l'on démarre comme tous les jours par quelques conseils de santé pratique pour l'été, Damien Mascret. Aujourd'hui, des conseils pour faire face à la chaleur.
Exactement, parce que notre corps n'aime pas les fortes chaleurs. En fait, il y a une zone de neutralité thermique, c'est celle où le corps finalement a le moins de travail, que ce soit pour réchauffer ou pour refroidir d'ailleurs, et c'est quand la température ambiante est entre 27 et 31.
D'accord.
Alors, à partir de 31, certains vont déjà d'ailleurs commencer à transpirer, ça dépend de votre métabolisme, pour éviter justement que la température interne ne dépasse 37. C'est une priorité, évidemment, pour le corps. Et puis d'autres, eh bien, commenceront à transpirer à 35. Là, tout le monde transpire à partir de 35. Et d'ailleurs, pour compenser ses pertes, eh bien, il faut boire beaucoup.
Il faut boire beaucoup, ça c'est le premier conseil contre la chaleur.
Voilà, bien s'hydrater. Le deuxième conseil, c'est de s'occuper de son logement. Alors bon, là, c'est un peu tard, bien sûr, pour s'occuper de l'isolation thermique, notamment des plafonds, des baies vitrées. Mais par contre, vous pouvez penser, bien sûr, à faire...
Fermer les volets.
Voilà, fermer les volets, mettre les rideaux. Alors, côté soleil, côté ombragé, vous pouvez au contraire laisser ouvert pour faire un courant d'air. Éventuellement,
ouvrir le matin, surtout.
Le matin, il faut y penser, matin et soir. Vous pouvez mettre un linge humide aussi devant la fenêtre pour que le courant d'air rafraîchisse un petit peu l'atmosphère par évaporation. Bref, il faut faire de l'ombre dans sa maison essayer de trouver une zone de fraîcheur. Parce que c'est ça qui est fondamental.
Oui, on dit qu'il faut se créer une zone de fraîcheur, mais comment fait-on? Un ventilateur ?
Alors, le ventilateur, ça peut aider, ça peut donner une sensation de fraîcheur, surtout si vous mettez des glaçons, par exemple, devant.
Ou une bouteille d'eau fraîche, il paraît, devant le ventilateur.
Une bouteille d'eau fraîche également, mais bon, c'est pas ça qui va rafraîchir la maison. Quand on parle de zone de fraîcheur, c'est vraiment trouver dans la maison l'endroit qui est le plus frais. Et il faut même aller jusqu'à, dans ce cas-là, éventuellement installer le lit à cet endroit-là. Ça peut faire des aménagements dans la maison, mais
la
c'est vraiment
au nord,
très
par
important.
Exemple.
Bah oui, il faut trouver vraiment cette pièce, quitte à préparer l'été avec vos parents ou vos grands-parents, voilà, pour avoir une zone de fraîcheur où vous allez pouvoir reposer le corps parce que, et c'est fondamental, votre corps a effectivement besoin de repos et il se repose quand il n'a pas à lutter justement contre une trop grande chaleur. Donc c'est pour ça que la nuit, c'est vraiment très important. Bien sûr, si vous avez la clim, vous n'êtes pas concerné. Donc en tout cas, il faut penser vraiment à cette zone de fraîcheur. Il faut absolument la trouver fondamentale en période de canicule.
Et la douche fraîche, ça sert à quelque chose ou pas?
Alors la douche fraîche, là aussi, vous allez avoir une sensation transitoire. C'est un petit peu comme les brumisateurs. Ça peut vous donner une sensation agréable, transitoire. Mais non, ça ne remplace pas, bien sûr, le petit séjour en zone de fraîcheur.
On conseille aussi d'aller passer 2-3 heures dans un centre commercial, dans un cinéma ou dans une église pour se rafraîchir. Ça, vous confirmez ce conseil?
Oui, complètement. C'est une bonne idée. Ça peut vous permettre de recharger un petit peu vos batteries. Alors, il faut quand même être très vigilant pour des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des problèmes cardiaques, rénaux, pulmonaires, hépatiques. Il faut penser aux personnes en grande précarité ou sans domicile fixe, les personnes qui ont des troubles mentaux, les sportifs, les travailleurs manuel en extérieur. Pour toutes ces personnes, il faut particulièrement être vigilant.
En plus des personnes âgées, des femmes enceintes et des jeunes enfants, il y a des personnes qui sont plus vulnérables à la chaleur?
Oui, il faut être vraiment attentif avec les personnes en situation de handicap, celles qui ont des maladies cardiaques, rénales, pulmonaires ou hépatiques. Évidemment, les personnes en grande précarité ou sans domicile fixe, les personnes qui ont des troubles mentaux ou du comportement. Il y a aussi les sportifs ou les travailleurs qui sont à l'extérieur sous un ciel de plomb. Et puis, il faut aussi penser à ceux qui prennent des médicaments, évidemment.
Voilà, et justement, on a une question de Jérémy à ce sujet.
Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre quand il y a des fortes chaleurs ?
Alors, réponse docteur.
Bah oui, effectivement, il faut revoir dès maintenant avec votre médecin effectivement la liste de médicaments. Jamais arrêter de sa propre initiative, bien sûr. Alors, il y a les diurétiques, bien sûr, qu'on donne pour éliminer davantage d'eau. Il y a aussi les neuroleptiques, parce qu'ils servent à la régulation, ils peuvent perturber la régulation de la température corporelle. Et puis, tout ce qui est anti-inflammatoire, aspirine, antibiotique, antidiabétique. Bref, un bilan avec le médecin ou le pharmacien, c'est utile en prévision de la canicule.
Voilà, et enfin, les vêtements, plutôt du blanc que du noir.
Alors oui. Exactement,
plutôt large.
Exactement, clair, ample, léger, large, plutôt en fibres naturelles, hein, coton ou lin. Ça a l'avantage de laisser passer l'air et d'absorber la transpiration, alors qu'à l'inverse, les vêtements synthétiques, ça semble fin, léger, mais enfin, ça n'absorbe pas la transpiration. Et du coup, la transpiration reste sur la peau, ça ne facilite pas l'évacuation de chaleur corporelle par évaporation.
Merci Damien Mascret. Europe 1. À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré au lâcher prise. C'est une formule qui peut agacer car on l'utilise à toutes les sauces, mais on va voir justement ce qu'il y a derrière, car Florent Servan-Schreiber, auteur et formatrice en psychologie positive, est là pour nous éclairer. À tout de suite.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité du jour, bonjour Florent Servan-Schreiber.
Bonjour Anne.
Merci beaucoup d'être avec nous. On rappelle que vous êtes auteure, conférencière, formatrice en psychologie positive. Alors bon, on va le dire tout de suite, certains sont horripilés par ce terme de lâcher prise qu'on entend souvent. Est-ce que vous pouvez déjà nous convaincre, Florence, que ralentir, se laisser porter par l'instant, c'est pas un truc de bisounours ?
Je vais formuler les choses autrement, puisque vous disiez tout à l'heure qu'on s'en sert à toutes les sauces. Je vais rajouter une sauce.
Allez-y.
Ce qui est absolument à retenir dans cette idée de lâcher prise, appelons-le comme on veut, c'est de retrouver une sensation de liberté. Et souvent, d'aller à contre-courant de ce que nous faisons le reste du temps nous donne la sensation de reprendre le contrôle sur quelque chose, y compris si c'est sur le temps. Donc c'est plus intéressant que de lâcher prise, je trouve, de récupérer de la liberté.
Alors, et récupérer de la liberté, ou en tout cas profiter de l'instant et se retrouver de l'autonomie, ça se fait comment ?
Alors, profiter de l'instant, ça peut être absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut profiter de l'instant en repassant, figurez-vous. Et quand je dis retrouver de la liberté, ça semble complètement incongru. Mais en vacances, on peut décider que ce que l'on a envie de faire, par exemple, c'est d'aller faire du repassage au moment où on le décide, pas parce qu'on le doit et qu'on attend cette chemise ou que quelqu'un dans la maison attend cette chemise pour la porter un certain jour, mais parce que c'est ça qu'on a envie de faire en écoutant de la musique, pendant que les autres sont à la plage, parce qu'on n'a pas envie d'être au soleil, parce qu'on n'a pas envie d'avoir trop chaud, parce qu'on a envie d'être peinard, tranquille dans la maison,
tout
seul. Donc on
fait ce qu'on veut à l'heure qu'on veut.
On fait ce qu'on veut à l'heure qu'on veut. Y compris si c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'être libre, alors que ça l'est.
Et on peut trouver du plaisir dans une corvée de repassage ? Comment vous faites-vous pour trouver des sensations et un moment de liberté dans le repassage ?
Eh bien oui, parce que ça n'est plus une corvée, c'est ma décision. C'est vraiment exactement ça, la liberté et le lâcher-prise. C'est de reprendre possession de ce que nous décidons de faire. Vous savez, j'ai un ami, Thomas Dansembourg, qui parle beaucoup de communication non violente et il dit une chose très amusante. Il dit parfois, on ne sait même pas comment s'appellent les enfants puisqu'on pense qu'ils s'appellent « dépêche-toi ». Quand on appelle ses enfants sans arrêt en disant « dépêche-toi, dépêche-toi », eh bien là aussi, de se dire « on va arrêter de prononcer ça, voir ce qui se passe ».
D'accord, mais quand quelqu'un vous dit « ok, lâcher prise, c'est bien joli, mais moi, je n'ai pas le temps », qu'est-ce que vous lui répondez ?
Absolument, on a le temps. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, pourquoi le faisons-nous ? Et si on regarde bien, les vacances sont l'occasion de se poser la question. Il y a des choses que nous faisons par devoir et il y a des choses que nous faisons parce que nous avons peur du vide, tout simplement.
Vous pensez à quoi ?
À peu près tout ce que nous faisons, c'est-à-dire de dire « mais non, mais moi je ne peux pas parce que je dois faire ça, je dois aller faire les courses, je dois appeler ma mère, je dois… » Enfin, il y a toujours une liste de « je dois ». Et avec une organisation un peu différente, on pourrait tout concentrer en une heure et avoir du temps pour faire ce que l'on veut le reste du temps.
Donc
mais
choisit,
finalement,
ça
nous arrange d'être attendu. Et je mets ça entre guillemets, de dire « mais je dois, je suis obligée ». Pourquoi ? Parce que ça nous permet de ne pas trop réfléchir à ce que nous avons vraiment envie de faire.
Damien Mascret ?
Oui, est-ce que certains n'ont pas aussi une petite pointe de culpabilité quand ils ne font rien ?
Absolument, puisque tout à coup, on se dit je ne suis pas utile. Et la culpabilité, c'est quoi ? C'est de se dire je pourrais être en train de faire autre chose, mais en fait, non. Voilà, je dois le faire et si je ne le fais pas, je ne suis pas à ma place et je ne suis pas là où on m'attend. Donc, je ne sais pas qui je suis. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là, dans cette accumulation de tâches, que ces couches que nous nous mettons au-dessus de la tête, c'est de dire avec ça, au moins, je sais à quoi je sers.
Damien ?
Oui, et je rajoute une question. Ne rien faire, ça n'est pas être inutile ?
Être inutile à quoi ?
Eh oui.
Et oui, et surtout être utile à quoi ? Parce que ne rien faire parfois nous permet d'éviter de faire un certain nombre de bêtises ou de contrarier d'autres choses ou d'autres gens. Mais essayons de ne rien faire. Et il faut voir, et alors je tiens à préciser que caresser son smartphone n'est pas ne rien faire. Oui. C'est-à-dire, voilà, parce qu'il y a une grosse confusion.
Il faut laisser les réseaux sociaux de côté.
Les réseaux sociaux, simplement l'écran. C'est-à-dire que là, c'est juste un gouffre de temps dans lequel, alors on dit non, je ne fais rien, mais si l'attention est quand même portée sur quelque chose qui est exogène, c'est-à-dire extérieur à nous. Ne rien faire, c'est lire un livre peut-être jusqu'au bout et ne rien faire d'autre. C'est surtout se réveiller en n'ayant pas décidé ce qui va se passer aujourd'hui. Et c'est un peu angoissant.
Et est-ce que ne rien faire, c'est pas une notion de privilégié ? Parce que quand on a des soucis dans son couple, des soucis financiers, des soucis au travail, on n'a pas forcément l'esprit à ne rien faire.
Plus on a de préoccupations dans son couple, de soucis financiers ou de soucis au travail, plus on va bénéficier de ces instants où on se dit ça, là, c'est juste pour moi. Et pendant un instant, je me place à l'extérieur du chaos. C'est vraiment une image qu'il faut prendre parce que nous sommes dans le chaos, tous pris. Et de temps en temps, on se dit non, je ne suis pas ce chaos. Je me mets juste à l'extérieur et je le regarde de là où je suis.
Mais comment vous faites pour le regarder ? C'est-à-dire que vous laissez passer ?
Alors, non, il y a une chose très simple et vraiment, c'est tellement basique que j'ose à peine vous le dire, mais c'est de s'écouter respirer. Et lorsqu'on s'écoute respirer, lorsqu'on se concentre sur cette respiration, c'est bien ce que préconise la méditation, mais appelons-le juste respiration. Je ne veux même pas l'appeler méditation. Et quand on est concentré simplement sur la respiration, on se rend compte que tout va bien. Juste là, tout va bien.
On est juste dans l'instant.
Et je suis à l'extérieur de ce chaos.
Damien Mascret.
Oui, est-ce que les autres acceptent finalement qu'on ait ces moments justement où on sorte un petit peu du flux, par exemple familial ou autre ? Comment on voit ça quand on est à l'extérieur ?
Alors, on le voit très différemment. Vous savez, je connais un petit garçon qui, pour Noël, alors après, ça dépend aussi de nos personnalités. Il faut bien savoir qu'il y a des gens extravertis qui ont besoin de beaucoup de gens. Il y a des gens introvertis qui ont besoin de moins de gens. Je connais un petit garçon qui, pour Noël, a demandé du temps tout seul. C'est-à-dire qu'il a mis sur sa liste au Père Noël, pendant toutes les festivités, etc. Je veux juste être sûr qu'il y a des moments où je peux être dans ma chambre tout seul. Et on se rend compte que c'est presque,
c'est
dans
incroyable.
Notre société, une demande à faire, tellement elle est incongrue. C'est ce que sous-entend votre question, c'est que c'est toujours bizarre. Et alors, vous remarquerez aussi que quand on a envie de rien faire soi, on trouve ça extrêmement normal. Mais si c'est son conjoint, alors là, on ne le regarde pas du tout de la même façon en se disant « il ne faut rien » ou « elle ne faut rien » alors que nous sommes en train de faire quelque chose. Donc, c'est aussi une notion, ce ne rien faire, qui est relative. C'est-à-dire, c'est en regardant autour de moi que j'ai l'impression soit d'être coupable, soit d'être en dehors, alors que c'est un droit absolu d'être dans un instant qui n'est que le nôtre.
Et on a des preuves scientifiques, des bienfaits de la méditation, du fait de s'arrêter, d'être dans sa bulle à soi ?
Alors absolument, puisque dès que nous pratiquons de la méditation, nous allons stimuler un nerf qui s'appelle le nerf vague et qui est en gros, qui pilote notre système immunitaire. Donc plus nous allons le stimuler par une simple respiration,
le
nerf vague va de la tête, en fait il part de la tête et il va traverser l'ensemble des organes. C'est pour ça que quand il est stimulé dans le bon sens, par exemple avec une respiration très simple, en fait il irrigue absolument tous nos organes de ses bienfaits. Et là, justement, on va avoir la pression artérielle qui baisse, on va mieux respirer, on va mieux dormir. Enfin, il y a tout un tas de bénéfices.
Damien Mascret.
Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent qu'on est en équilibre entre un système qui nous accélère et un système qui nous ralentit. Et c'est vrai aussi que c'est souvent...
Il y a des hormones dans tout ça qui...
Et les hormones interviennent, bien sûr. Le neuro-hormonal est très important. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ralentir est aussi parfois bon pour l'organisme. Là aussi, on l'oublie. On pense qu'il faut toujours être dans l'activité. Or, parfois, eh bien, ne rien faire est bon pour l'organisme.
On reste ensemble, Florence Servan-Schreiber. Et dans un instant, on va continuer d'évoquer le lâcher-prise.
Europe 1.
Et nous verrons que pour ralentir, pour lâcher prise, il n'y a pas que les vacances sans planning ou la méditation, il y a aussi l'écriture. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé et Bien-être sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Comment lâcher prise? Comment profiter de l'été pour ralentir et décompresser? C'est le dossier du jour. Pour en parler, nous sommes en studio avec Florence Servan-Schreiber, conférencière et formatrice en psychologie positive, et toujours aussi avec le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Florence Servan-Schreiber, vous nous avez expliqué que pour ralentir, il y a une première pédale de frein qui consiste à se mettre dans sa bulle, à reconquérir sa liberté, à prendre du temps pour soi. Il y a une autre solution que vous proposez dans votre dernier livre, Bloom, qui est paru chez Marabout. Alors Bloom, c'est B-L-O-U-M, avec point d'exclamation. Il y a un autre frein, c'est celui de l'écriture. L'écriture, ça permet aussi de se poser, de se réapproprier les instants.
Absolument, puisque pour écrire, on doit être très disponible. Pour la feuille de papier, pour le stylo, pour le clavier. C'est-à-dire que c'est impossible de parler et écrire en même temps. À peine possible de mâcher et d'écrire en même temps. C'est-à-dire que ça demande vraiment d'être à l'endroit où nous sommes. Donc, c'est un exercice absolument génial pour se sentir centré et reposé quand on en sort. Et c'est ça qu'on ne sait pas. C'est que lorsqu'on ne mesure pas à quel point faire quelque chose, mais je veux dire faire un gâteau à la même fonction, c'est-à-dire que quand on est complètement concentré sur son gâteau ou sur ce texte qu'on est en train d'écrire, même s'il est très court, eh bien, on en éprouve des satisfactions complètement dingues parce que pendant ce temps-là, on n'a pensé à rien d'autre. Et si on regarde, le lâcher prise, c'est ça, c'est de n'être que dans une seule chose et d'y être vraiment. Et c'est très bénéfique et la sensation est fantastique.
Alors vous, l'écriture, vous connaissez, c'est votre métier. Mais alors, vous invitez tout le monde à se mettre à l'écriture. D'ailleurs, vous avez proposé des ateliers en ligne pendant le confinement. Par quoi on peut commencer quand on n'a jamais écrit? Et qu'est-ce qu'on écrit d'ailleurs?
Alors justement, l'atelier, donc il y a un atelier qui s'appelle Bloom, qui porte exactement le même titre que le livre, et que je vous invite à rejoindre parce que il faut s'imaginer que lorsqu'on écrit seul, il y a quelque chose d'intimidant, alors que tout le monde sait écrire, hein, puisqu'on a tous appris à l'école, hein, donc ça, tout le monde sait le faire. Et quand tout à coup, on écrit en groupe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir nous lire, dont on va lire les textes, ce sont des gens qui sont face exactement au même énoncé que nous, il y a une espèce d'humilité qui s'installe et qui fait qu'on se sent beaucoup plus rassuré, moins seul, c'est plus facile, et en fait, c'est assez entraînant.
La collectivité est entraînante.
Le fait qu'il y ait d'autres gens, on a une vision très romantique de l'écriture, où seuls les écrivains sont traversés par des textes, mais pas du tout, c'est un exercice comme un autre, comme celui de faire un gâteau, et j'insiste, tout le monde sait le faire, parce qu'on peut écrire avec des fautes d'orthographe, ça n'a aucune importance.
Par quel exercice on peut commencer, par exemple?
Et alors, il y a un exercice qui est absolument bénéfique, c'est le matin, ça s'appelle l'écriture automatique, alors c'est marrant ce truc-là, parce que vous vous réveillez, vous avez une feuille de papier, un crayon, par exemple, et pendant 10 minutes, donc c'est une question de temps, ça ne dure pas plus, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, y compris je ne sais plus quoi écrire. Vous écrivez je ne sais plus quoi écrire.
Mais sur nous, en fait.
Oui,
sur soi,
juste ce qui vous passe par la tête. Il y a une petite voix qui nous habite et qui nous parle en permanence, sauf lorsque nous sommes vraiment concentrés. Donc on écoute cette voix et on écrit tout simplement. Et il va y avoir les choses auxquelles on a, les choses dont on a pu rêver, les préoccupations du moment, les questions
tout
qu'on
se pose.
Tout ce
qu'on a à faire dans la journée.
J'ai faim, j'ai envie d'un café, enfin, peu importe ce que c'est. Mais c'est comme une purge à la fois de nos émotions et préoccupations qui font qu'on en sort rafraîchi et prêt à démarrer sa journée.
Damien Mascret ?
Oui, est-ce que ça a de l'importance, la façon dont on écrit, à savoir, est-ce que ça change quelque chose d'écrire à la main ou d'écrire avec un ordinateur ?
Alors, c'est une excellente question, puisque je vais même rajouter que maintenant, il y a des gens qui écrivent sur leur smartphone. Donc, on ne peut même plus dire ce qu'est l'écriture. C'est juste un assemblage de mots. Et non, c'est vraiment une question de goût. J'assimile souvent ça au chocolat noir et au chocolat au lait. Il y a des gens qui préfèrent l'un et les autres préfèrent l'autre. En général, les gens qui aiment le chocolat noir ont un petit peu de mépris pour les gens qui préfèrent le chocolat au lait.
C'est vrai.
Voilà, sans aucune bonne raison. Et c'est comme c'est l'écriture. Tapuscrite, ça s'appelle comme ça, ou manuscrite, on fait exactement comme on préfère.
Les bienfaits sont prouvés de cet exercice d'écriture et ne serait-ce que de cette purge là, le matin sur une feuille.
Alors, non seulement celui-ci, mais là aussi, de nouveau, il y a des études dans ce domaine qui ont observé des gens écrire 3 fois 20 minutes pendant 3 jours de suite. C'est-à-dire une fois 20 minutes pendant 3 jours de suite sur le plus fort traumatisme de leur vie. C'est-à-dire le truc le pire qui vous est arrivé, que vous n'avez pas digéré, qui traîne encore, qui fait mal, qui pique, etc. Et en écrivant donc, pendant 20 minutes, et vous recommencez le lendemain et le surlendemain, il y a une amélioration des signaux physiologiques à l'intérieur du corps, c'est-à-dire qu'on va sécréter moins de cortisol, qui est ce que notre cerveau sécrète lorsque ça ne va pas, lorsque nous sommes sous stress, on va se sentir allégé. Donc oui, il y a de vrais bienfaits thérapeutiques et physiologiques au fait d'écrire.
Il faut pratiquer cet exercice d'écriture tous les jours pour qu'il y ait un effet ?
Surtout pas. Non. Il faut que ce soit plaisant, il faut que ce soit quand on peut, quand on veut, quand on a l'élan de le faire. Vous savez, c'est un peu comme le sport, l'écriture, c'est un peu intimidant. Alors on se dit, ouais, je ne sais pas, si j'ai envie, ça va être difficile. Donc, petite pichenette hein, au derrière pour s'y mettre. Et une fois qu'on s'y met, on se rend compte qu'il y a des bénéfices et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile.
Damien Mascret ?
Est-ce qu'on peut être ambitieux ? Est-ce qu'on aura les mêmes effets si on fait, finalement, on veut écrire, je ne sais pas, un livre familial ou des choses comme ça ? Ou même un livre pour être publié, après tout, n'est-ce pas le fantasme de beaucoup de gens ?
Alors, c'est très français. Sachez que c'est quelque chose qui, dans notre pays, est extrêmement présent. Il y a quasiment plus de gens qui ont envie de publier de livres que de gens qui lisent. C'est vraiment un fantasme absolument général. Après, peu passeront à l'acte, parce qu'un livre est facile à commencer et beaucoup plus difficile à terminer. Donc, il faut déjà aller jusqu'au bout. Mais vous savez, dans cet atelier d'écriture, Bloom, il y a des gens de tous les âges et dont certaines personnes viennent en disant « j'ai envie de pouvoir raconter ma vie ». Et donc, il faut bien que je commence quelque part. Et ça va m'aider de mettre le pied à l'étrier, de commencer avec des textes courts, trouver ce réflexe. Et c'est vrai que pour les générations futures, même un journal intime, il y a des organismes qui vont collecter des journaux intimes. Complètement, c'est votre vie, la mienne, donc ce sont des choses du quotidien. Mais dans 100 ans, même dans 50 ans, même dans 30 ans, la description de la vie d'une femme en 2020 à Paris, par exemple, aura une valeur incroyable pour les générations qui vont suivre. Donc, en fait, tout a de la valeur.
Là, c'est un petit peu un exercice d'introspection que vous nous proposez. C'est presque du journal intime. Est-ce que c'est aussi efficace si on écrit sur un paysage, sur une fiction ?
Alors, il y a deux types d'écriture. Il y a en effet cette écriture intime qui ne regarde que moi et je vais y parler de ma vie, mes préoccupations, etc. Ça nous fait beaucoup de bien parce que, en gros, on ne peut pas tout raconter. Et donc, on a quand même besoin de pouvoir tout raconter quelque part. Donc, le faire par écrit, c'est formidable. Et après, il y a l'écriture créative. Et l'écriture créative, c'est, par exemple, je regarde un paysage et je vois ce qu'il m'inspire. Ou alors, je reçois dans ma boîte mail une consigne d'écriture, comme le fait cet atelier, et je vais répondre à cette consigne d'écriture.
Alors, par exemple ?
Eh bien, par exemple, il y a une façon de se présenter dans mes ateliers qui est un peu particulière, puisque je ne vous demande ni ce que vous faites dans la vie, ni d'où vous venez, mais quelle est la partie préférée de votre corps ?
D'accord.
Et pourquoi ?
Il faut écrire une page.
Et on écrit absolument 300 mots. Et c'est fantastique de voir non seulement la créativité des gens, mais la différence des réponses et les morceaux du corps. Et surtout, pour y répondre, on est obligé de se regarder positivement. Et c'est quand même un peu ça mon intention derrière.
Damien Mascret.
Est-ce qu'on peut proposer ça aussi aux enfants ?
Alors, il y a aussi quelque chose d'un peu particulier dans notre pays. C'est que nous n'enseignons l'écriture que pour faire des dictées, des dissertations et avoir des mauvaises notes. Alors qu'en fait, l'écriture est un acte créatif absolument illimité. Et qu'aux États-Unis, par exemple, dès le primaire, il y a des cours d'écriture créative. Où vraiment, ce qu'on demande aux enfants, c'est de prendre un sujet, de galoper avec. Je dis galoper avec parce que pour moi, c'est comme des petits poneys tout fous qui se mettent à courir avec les mots et qui racontent des histoires. Et si seulement on jouait plus, évidemment, ça permet aux enfants d'écrire. Mais pour ça, il faut les lire. Et c'est ça qui fait qu'un texte existe. C'est justement parce que quelqu'un va le lire.
On va poursuivre cette conversation avec vous, Florence Servan-Schreiber. On rappelle que vous êtes auteure et formatrice en psychologie positive.
Europe 1.
Comment ralentir dans une société qui va vite ? Comment profiter de l'été pour changer notre rapport au temps et à l'urgence ? On continue d'en parler dans un instant.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être et nous parlons aujourd'hui de lâcher prise. Nous sommes toujours avec le docteur Damien Mascret en studio, médecin et journaliste au Figaro et notre invité du jour, Florence Servan-Schreiber, conférencière, auteure et formatrice en psychologie positive. Alors, on a pas mal parlé d'introspection quand on lâche prise, mais en même temps, il vaut mieux être dans le même tempo que l'entourage en vacances, par exemple. Si on essaie de s'extraire pour faire de la méditation, c'est pas forcément bien vu. Si on essaie de ralentir alors que tout le monde court, on est un petit peu en décalage. Comment faire en sorte que la lenteur soit bien vue dans notre entourage ?
Peut-être on peut s'adonner à la lenteur à tour de rôle. Et puis après, vous savez, il y a des rythmes dans les familles. C'est-à-dire qu'il y a des familles où les choses peuvent aller plus lentement. Et puis, il y a des familles chez lesquelles c'est absolument toujours tambour battant ou des bandes de copains où c'est vraiment les sportifs. Oui. On fait absolument tout. Donc, tout n'a pas nécessairement sa place, mais tout dépend de son besoin. Or, même dans une troupe, il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin d'autre chose. Et je crois que vraiment, une des premières choses qu'il faut dire, c'est à quel point on a besoin juste de ce moment de calme et de temps pour soi. On peut le dire.
Oui, parce que le problème, c'est que pendant les vacances, on arrive à ralentir, mais la rentrée nous rattrape en général. En fait, ce n'est pas très bien vu d'être lent dans une société qui zappe sans cesse et qui s'accélère. Comment on fait pour aller à contre-courant ?
Je suis extrêmement contre le conformisme, donc il suffit de décider. Non, là aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, de mode ou de pas mode. Je crois que nous sommes en mesure de suivre un rythme qui est le nôtre et on ne peut pas aller plus vite que ça. Et quand on commence à pédaler dans la semoule, on le sent. Et quand on pédale dans le vide, surtout, on le sent et on voit qu'on n'a plus d'énergie. Donc c'est vrai que ça n'est... Alors je vais vous dire, à la fois, ça n'est pas... très à la mode, comme vous dites, parce que ça va de plus en plus vite. Et pourtant, pourquoi est-ce que maintenant, tout le monde se met à la méditation ? Pourquoi est-ce qu'on trouve des applis dans tous les smartphones qui vont nous aider à respirer, justement, à rester posé ? Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui est allé trop vite et qu'on a besoin de revenir à quelque chose de plus équilibré.
Damien ?
Est-ce qu'on ne doit pas aussi parfois encourager, justement, les autres à ralentir ?
Non seulement encourager les autres, mais encourager les enfants à ne rien faire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ennui quand vous étiez petit et à quel point c'était riche. Et là aussi, les écrans, malheureusement, ne laissent plus vraiment nos enfants s'ennuyer parce qu'ils vont avoir la tentation d'aller vers ça. Alors que quand même, c'est là que l'imagination part absolument dans tous les sens.
Ne rien faire, c'est jouer aussi.
Mais bien sûr, ouais. mais c'est jouer avec le bout de bois. Quand on dit ne rien faire, c'est que je vais regarder les morceaux de poussière et l'araignée qui passe et avoir une conversation avec l'araignée qui passe quand je suis enfant. Et ça aussi, ça reste absolument essentiel. Même si tous les écrans sont là, il reste des araignées et des feuilles.
Est-ce que vous vous surprenez vous-même à réaccélérer alors que vous savez que ce n'est pas très bon ?
Je suis quelqu'un qui va plutôt vite. Mon rythme est plutôt un rythme rapide. Mais j'ai en fait organisé dans ma vie des moments d'arrêt. C'est-à-dire que...
Comment vous faites ?
Alors, je le raconte notamment dans ce livre Bloom. Donc, je travaille, comme vous le disiez, j'exerce plusieurs métiers. Mais par exemple, lundi, je reste en pyjama. Je ne sors pas de chez moi, j'ai ce luxe-là, parce que je peux décider que le lundi... Et attention, je ne fais pas rien, mais vous voyez, je suis en train de m'excuser de ne pas rien, je ne fais pas rien.
Vous avez le droit.
Mais en fait, c'est la journée où j'écris et où j'écris en silence. Donc, ça n'est pas ne rien faire, mais c'est une rupture de mon rythme habituel. Et c'est comme ça que je ne perds pas la boule.
Et c'est pour ça que c'est important d'être en pyjama, c'est parce que c'est une rupture ?
Non, c'est parce que comme ça, ça empêche de sortir de chez moi. Je suis sûre de le respecter.
Damien ?
Oui, alors certains, effectivement, ont besoin de planifier d'une certaine façon, puisque là aussi, est-ce que ce n'est pas un petit peu un mythe de penser que si on n'organise pas les choses, de toute façon, on arrivera à les faire ? Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas prévoir ces moments de ralentissement ?
Absolument. Ils s'organisent comme le reste. C'est-à-dire que là aussi, vous avez raison, c'est une illusion de se dire « j'arrête quand je veux ». C'est un peu, vous savez, c'est comme, comme tous nos vices, on se dit de toute façon « j'arrête quand je veux ». Mais ce n'est pas vrai. Il faut s'organiser pour pouvoir arrêter. Et il faut s'organiser pour ne serait-ce qu'avoir casé les enfants ou être sans son conjoint ou pouvoir être avec ou sans ses copains. C'est quelque chose qui doit se planifier et chacun a le droit, dans son emploi du temps, d'avoir ces moments, il se prévoit, même collectivement, avec le reste de la famille, en disant « ça, là, c'est pour moi ».
Quels sont les symptômes du fait qu'on est en sur-régime ? Parce qu'il y a certaines personnes qui se diront « mais c'est vraiment pas pour moi de ralentir, je suis hyperactif, c'est comme ça, point ». Est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter qu'on va trop vite ?
Eh bien, déjà, la peur de rien, C'est-à-dire que si jamais ça nous fait peur, c'est une petite alerte déjà de se dire oulala, et pourquoi est-ce que
si
ça
on
me
essaie
fait...
de tout remplir.
Oui, si on essaie de tout remplir. Il y a parfois des gens comme ça que vous allez entendre pester parce que leur emploi du temps est tellement plein, mais si on les regarde bien, qui a rempli cet emploi du temps? Donc c'est quand même quelque chose qui est venu d'eux. Quels sont les signes? Évidemment la fatigue, le manque d'appétit global. Quand je dis appétit, c'est pas ce que l'on mange, mais d'appétit global pour la vie. Voilà, de passion, d'envie, de curiosité. Et puis surtout, quand on commence à se rendre compte que on passe à côté de plein de choses, qu'on rate des choses parce qu'on ne les a pas vues. Pourquoi ne les a-t-on pas vues? Simplement parce qu'on était trop occupé avec le nez sur le guidon. Et il y a quelque chose de fantastique qui peut nous réconcilier avec l'idée justement de ralentir ou du vide, c'est de repérer de nouveau les choses fantastiques qui se produisent autour de nous. Et l'été, on peut faire ça. Alors, je me suis lancée comme ça une occupation cet été qui a vraiment pour but absolu de me permettre de repérer ce qui se passe autour de moi, que j'ai appelé la grande aventure. Et c'est comment vivre une grande aventure sur place.
Redécouvrir son environnement.
Exactement. Alors, je fais ça sous forme de photos, je fais ça sous forme d'une paire de chaussures que je vais photographier chaque jour. À des endroits différents et sur Instagram. Mais grâce à ça, je suis obligée de me demander, de regarder autour de moi. Parce que, en fait, là, si on regarde bien cette année, les gens ne voyagent pas, restent chez eux, sont dans... Voilà, tout est un peu limité. Comment ouvrir l'espace, juste celui qui est là,
sans bouger.
Uniquement à l'intérieur, c'est une question de présence à ce que nous faisons. En plus, c'est très amusant.
Damien ?
Est-ce que ce n'est pas un appel aussi, finalement, à revenir à notre vie imaginaire ?
Le jardin secret est à peu près l'endroit le plus peinard pour ne rien faire. C'est-à-dire que ça, vraiment, je trouve que c'est l'endroit le plus fantastique et c'est là où il rejoint l'écriture. C'est que l'écriture va nous permettre de nous promener dans ce jardin secret. Mais vous avez complètement raison. C'est ce que nous avons dans la tête qui est l'endroit le plus privé, le plus fermé, le plus tranquille, le plus libre et souvent le plus intéressant.
Merci beaucoup Florence Servan-Schreiber d'être venue nous éclairer sur ce sujet. On rappelle le titre de votre dernier livre, ça s'appelle Bloom aux éditions Marabout. Et donc en tapant Bloom sur internet, on tombe aussi sur vos ateliers, c'est
Absolument.
Ça
Absolument, Florence Servan-Schreiber, Bloom, vous allez trouver l'atelier tout à fait.
Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec des conseils pour motiver les enfants à faire du sport cet été et la chronique sexo de Damien Mascret. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Notre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours vers 15h40, nous parlons de psychologie et des habitudes qui peuvent améliorer le bien-être au quotidien. Tous les jours, un expert nous donne des pistes et de la motivation pour améliorer nos modes de vie. Bonjour Frédéric Banguet.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes ancienne athlète de haut niveau et vous êtes aussi la fondatrice de Saltomag, un magazine gratuit dédié au sport des enfants. Si on vous demande justement trois idées pour faire du sport en famille et transmettre aux enfants le goût de l'effort physique, vous nous dites quoi ?
Alors, je dis quoi ? Alors, j'essaie toujours de bien resituer parce que les enfants, c'est. Il y a deux choses. Il y a les âges et puis il y a bien évidemment la situation géographique, le contexte. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance, par exemple, d'être sur une région qui est très sportive où il y a un lac et des montagnes. Donc, on peut effectivement autant aller faire de la randonnée qu'aller faire du paddle ou nager dans le lac.
D'accord. Si vous voulez, vous faites une catégorie petits-enfants et ados. Et puis. Et on va prendre
alors,
tous les conseils.
Alors, en fait, non, je suis beaucoup... Voilà, en fait, ce que je fais, c'est que je suis beaucoup plus générale. Comme ça permet de chacun y piocher ce qu'il faut. Parce qu'en soi, chaque enfant est différent. Donc, c'est vrai qu'au-delà de dire par tranche d'âge, moi, j'aime l'idée qu'il faut varier les pratiques. Mm-hmm. Donc, ça vaut pour,
tous les âges.
Ouais, premier conseil, c'est varier les pratiques, proposer, regarder, s'intéresser. Surtout que, comme je l'explique souvent, le sport de nos enfants n'est pas du tout le sport que nous avons connu, nous. Nous, on a connu un sport qui était, on va dire, assez laborieux. On faisait beaucoup d'efforts pour voir un peu ingrat, hein, pour pas trop de résultats, forcément, pour une médaille en chocolat. Alors qu'aujourd'hui, nos enfants ont ce besoin d'abord de s'amuser. Donc, il ne faut pas hésiter à leur faire découvrir des nouveaux sports. sport, il y a plein de nouvelles pratiques. Ça, il faut regarder ce qui se fait dans le coin. Qu'est-ce que, c'est pour ça que je parlais de géographie tout à l'heure.
Mmh. Donc on profite de toutes les infrastructures sur le lieu de vacances, tout ce qui est ludique, on en profite.
Exactement. Et puis c'est l'occasion, surtout pendant les vacances, d'essayer plein de sports différents qui sont maintenant. Enfin voilà, que ce soit le skateboard ou que ce soit. Enfin voilà, c'est des sports que nous on faisait pas trop quand nous on était jeunes. Il y a du golf foot. Enfin, ils inventent aujourd'hui plein de sports.
Du golf foot.
Mais oui, il existe le golf foot, c'est assez marrant à découvrir. Donc voilà, moi je sais qu'après, je donne comme deuxième conseil une pratique familiale, c'est-à-dire que si y a la chance d'avoir une fratrie, c'est cool que les enfants fassent ensemble et découvrent ensemble. S'il y a des voisins, des copains, des camarades de camping ou quoi que ce soit à côté, c'est toujours bien d'y aller à plusieurs parce que ça motive. Et puis surtout qu'on est un peu timide, ça permet de pas aller seul.
Et ça fait des souvenirs en commun ensuite.
Exactement, puis ça crée du lien. Et puis aussi, tout simplement, en tant que parent, ne pas hésiter à découvrir et à faire avec les enfants, même si c'est des sports. Là, en l'occurrence, moi, souvent, ce que je dis carrément, c'est n'hésitez pas à demander à votre enfant de vous faire découvrir son sport. Il y a de grandes chances qu'on soit ridicule en tant que parent.
Vous pensez à quel sport, par exemple?
Franchement, je n'ai pas de sport en particulier, parce que c'est les enfants qui peuvent proposer, mais je sais que, par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais très bonne à la corde à sauter, c'est ridicule, mais ça fait quand même bien travailler le cardio. Mais le jour où j'ai dû reprendre une corde à sauter pour montrer à ma fille, mais si, regarde, je sais faire des doubles. Et puis bizarrement, non, je ne sais plus faire des doubles ou des citrons ou de je sais pas quoi. Et puis que j'ai soufflé au bout de deux secondes, elle était morte de rire et moi aussi. Et puis je voulais me challenger un petit peu. Donc, faut pas hésiter, si c'est possible, à essayer avec l'enfant, à découvrir ensemble, à dire attends, si tu sais pas, moi je vais essayer avec toi. Moi, l'expérience que je donnais aussi, là, dernièrement, je l'ai fait avec ma fille, la Via Ferrata. J'ai fait de la Via Ferrata là, avec ma fille. Donc, bon, encore une fois, c'est une question de contexte. J'ai de la chance d'avoir des montagnes pas loin de chez moi. Donc, la Via Ferrata, je sais pas si vous connaissez, c'est le principe. Moi, j'appelle ça l'escalade.
C'est un mi-chemin entre la randonnée et l'escalade, on va dire.
Alors, il y a une partie qui est randonnée, ça c'est sûr. Et après, effectivement, il y a une partie. Alors, escalade, non, parce qu'il y a en fait, c'est des barreaux qui sont ancrés dans la falaise.
Dans la
roche. Donc, du coup, on va grimper puis traverser la falaise. Mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont un petit peu, un peu tricky, comme on peut dire, un peu touchy, un peu plus périlleux, selon la difficulté de la via. Et effectivement, moi, avec ma fille, j'en ai fait une qui était un peu dure. Pourtant, c'était marqué que c'était un petit peu difficile, mais je me suis dit, oh, elle va y arriver. Puis c'est vrai qu'au milieu du parcours, là, je me suis dit, ah, c'est dur. Mais j'ai pas voulu lui dire. Si je lui dis que c'est dur, alors là, on est fichu. Je ne dis pas que c'est dur.
D'accord. Donc des pratiques variées, des pratiques collectives et familiales, ça, ce sont vos deux premiers conseils. Et le troisième?
Le troisième, c'est mettre un peu de challenge. Si l'enfant est challenging, parce que tous les enfants n'aiment pas la compétition, c'est important de bien se rendre compte. Soit on met un petit challenge, la récompense à la fin, surtout les félicitations, les regarde ce que tu as été capable de faire, surtout vraiment toujours bien féliciter et encourager l'enfant, et pendant l'effort et après l'effort, qu'il se rende compte que il a été capable de faire quelque chose d'un peu extraordinaire, quoi, parce que c'est vrai que ça nous paraît très évident pour chacun, mais les enfants, ils ont besoin d'être récompensés, d'être encouragés, voilà. Et c'est ce que je disais, par exemple, juste pour finir avec cet exemple de Via Ferrata, justement quand c'était un moment difficile, je lui ai dit avoue que là tu aurais abandonné. Elle m'a dit oui, j'aurais abandonné. J'ai dit on n'a pas le choix, on est en plein milieu de la falaise, il faut avancer, on peut pas revenir en arrière. Et donc je lui ai dit à la fin tu seras contente, et effectivement à la fin elle était extrêmement fière. Elle a raconté ça à ses copines. Voilà, donc il y a ce côté récompense, félicitations qu'il faut aussi toujours mettre en avant pour se montrer qu'on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est bien, on est des super-héros.
On est des super-héros. Merci beaucoup pour vos conseils, Frédéric Banguet. On rappelle que vous êtes ancienne athlète de haut niveau et fondatrice du magazine de sport pour enfants Saltomag, un magazine gratuit que l'on peut aussi retrouver sur Internet. Merci beaucoup.
Saltomag.com, oui.
Europe 1.
Votre émission santé sans rendez-vous continue dans un instant avec la chronique sexo au programme Damien Mascret.
Les fantasmes érotiques.
À tout de suite.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être de 15h à 16h. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité et vie affective avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et aujourd'hui, donc, vous vouliez nous parler des fantasmes érotiques.
Eh bien oui, parce que effectivement, tout le monde en a. Alors ça dépend effectivement de la définition que vous prenez, hein, mais on peut considérer que les fantasmes, ce sont finalement des bulles d'excitation créées par notre imagination. Alors parfois, effectivement, notre cerveau ne veut pas en produire, hein, ça se traite. Évidemment, dans ces cas-là. Et puis parfois, eh bien, notre vie affective et sexuelle nous suffit, donc on ne voit pas pourquoi y recourir. Après tout, pourquoi pas si on est satisfait comme ça. Certains, parfois, ont des fantasmes sans le savoir. C'est-à-dire que si dans la journée, bah oui, si vous imaginez finalement, soit vous repensez, hein, c'est le souvenir de votre dernier rapport sexuel, ou vous imaginez la façon dont votre partenaire va vous caresser délicatement, vous êtes en train de fantasmer, vous êtes en train d'alimenter votre imaginaire érotique. Et puis parfois, eh bien, ce sont des fantasmes sous forme de simplement de fragments de scènes, de visages, de parties du corps. Ce qui est assez constant dans les fantasmes, c'est qu'on est souvent un petit peu embarrassé par eux. On a quand même une éducation assez lourde en matière de sexualité. Et ça peut même être en contradiction, finalement, avec votre éducation, avec votre morale, avec l'idée que vous vous faites de ce qui doit se passer entre deux partenaires. Donc ça peut être, finalement, culpabilisant, ça peut être finalement quelque chose qui vous pose une difficulté parce que vous ne savez pas quoi en faire. Hein. Si vous êtes fidèle parce que c'est une valeur importante dans votre couple et que vous fantasmez sur des trios ou plus, eh bien effectivement, parfois, vous culpabilisez.
Alors, est-ce qu'il faut les réaliser, ces fantasmes ?
Ah bah, je vais vous répondre ni. Hein. Il n'y a ni obligation, ni interdiction. Encore qu'il peut y avoir des interdictions, bien sûr, quand la loi l'interdit. Hein. Veillez aussi d'ailleurs à ne pas vous mettre en danger en voulant les réaliser. Par contre, c'est vrai que le fantasme, on maîtrise tout dans le petit scénario qu'on se crée, alors que la réalité, évidemment, on ne maîtrise pas tout. Alors, ne pensez pas que le pouvoir érotique du fantasme va s'épuiser si vous le réalisez, hein, parce que c'est souvent le fruit d'ailleurs de notre histoire interne, intérieure, intime. Donc de toute façon, ça ne s'épuisera pas. Et quand bien même ça s'épuiserait, vous pourrez de toute façon en créer des nouveaux. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que personne ne choisit ce qui nous excite.
Je pense à l'été.
Et ben voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à quelque chose.
Est-ce qu'il faut partager ces fantasmes avec son partenaire ou il faut les garder secrets ?
Alors c'est une question difficile, hein, ça va dépendre de votre partenaire. Il faut effectivement qu'il ait compris cette idée que finalement le fantasme ne reflète pas votre identité, votre valeur en tant qu'individu. C'est simplement bien, ce qui vous excite, vous n'avez pas choisi. Ça peut être un terrain de jeu formidable pour des adultes consentants, mais il faut comprendre, si vous partagez le fantasme de quelqu'un, quelle est la dynamique du fantasme. Si, par exemple, il fantasme sur les jeux de cow-boy et d'indienne, eh bien, il faut savoir si c'est le cow-boy qui vient libérer l'indienne ou si c'est l'indienne qui veut se venger du cow-boy. Parce que c'est ça que vous allez animer quand vous allez essayer de vivre le fantasme. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le fantasme peut très bien simplement s'évoquer. Donc, par des petits gestes ou par les mots. N'oublions pas encore une fois le pouvoir de la parole. Hein. Vous pouvez très bien évoquer le fantasme de votre partenaire parce que simplement vous allez dire quelque chose. Vous allez imaginer que vous faites quelque chose ou dire que vous allez faire quelque chose, même si vous ne le faites pas, vous activez dans ce cas-là la zone fantasmatique, la zone érogène qui est dans le cerveau. À partir du moment où vous dites un mot, vous créez quelque chose. Si par exemple je vous dis banane.
Et voilà, c'est bien noté, Damien Mascret. Tous les conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1. Lundi, vous retrouverez Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed dans Sans Rendez-vous. C'était un plaisir de vous accompagner durant ce mois de juillet. Merci Damien Mascret.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup.